Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour un nouveau numéro de Bonjour Turbine en direct sur Station B et à Caen donc. Et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Je suis en compagnie d'Alain. Ce soir, place aux livres et plus exactement aux librairies indépendantes. Avec nous pour en parler, trois invités, Véronique et Christophe Blanchard, de la librairie Place 26 à Douvres-la-Délivrande, et Stéphane Godard, de l'univers BD à Rue Froide, à Caen. Pour ce nouveau chapitre de notre émission, nous pourrons aussi compter sur notre magicienne Marion, qui, comme à son habitude, va assurer à la technique. Florian nous livrera ses coups de cœur, Lise est allée à la rencontre des Canets et des Canaises. Quant à Thomas, il partira en guerre contre Amazon. Enfin, Alain vous sert de guide pour vos prochains rendez-vous culturels. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'état de santé de nos librairies indépendantes. Quelques chiffres pour planter le décor. Il y a 20 à 25 000 points de vente de livres. Librairies, grandes surfaces culturelles, hypermarchés, supermarchés. 3500 librairies indépendantes existent en France. C'est l'un des réseaux les plus denses au monde. Les librairies indépendantes sont le premier de circuit de vente de livres en France. 40%, c'est la part de marché des librairies devant les grandes surfaces culturelles, la grande distribution alimentaire et Internet. Près d'un livre sur deux sont achetés en librairie indépendante. Pourtant, 1%, c'est la marge résultat net moyen du secteur de la librairie qui est l'un des moins rentables du commerce au détail. Voilà pour le plan chiffré, mais qu'en est-il sur notre territoire ? Eh bien, réjouissons-nous car dans notre département, il est très dynamique. À Caen, nous comptons 17 librairies indépendantes. Je ne sais pas si Caen est la ville de France où il y a le plus de librairies au regard du nombre d'habitants, mais je sais qu'elle est la seule ville du monde où vous pouvez entendre 20 000 supporters braillards qui scandent le nom d'un poète, François de Malherbe, pour soutenir leur équipe de football. Confié Laurent Laillé de Brouillon de Culture dans les colonnes de nos confrères de Liberté. Et pourtant, comme tous leurs collègues français, les libraires canets ont été soumis à rude épreuve depuis 30 ans. Ils ont dû s'adapter successivement à l'arrivée de la FNAC dans le centre-ville, en 88, à l'émergence d'Amazon, poursuit toujours Laurent Laillé, mais que cela ne tienne, quand Douvres-la-Délivrande, Falaise et bien d'autres villes, évidemment, peuvent compter sur le dynamisme de leurs libraires. À l'heure de la propagation des écrans à tous azimuts, dont on déplore parfois les effets, le développement du sport dans la société, la nouvelle civilisation des loisirs qui nous attire, le livre semble bien résister dans le monde contemporain. C'est une partie qui n'était pas gagnée d'avance et on le doit beaucoup à nos libraires qui n'ont pas baissé les bras et qui ont su faire face à la concurrence avec passion pour redynamiser leur profession, pour faire vivre les livres et nous donner accès à la lecture. Pour nous, lecteurs, entrer dans une librairie, c'est toujours entrer dans un monde multiple et merveilleux. Celui de la fiction, de la poésie, de la bande dessinée, du roman, du documentaire, du livre de poche, à l'édition de luxe, tout y est. Mais cela ne serait rien sans son maître d'œuvre, le ou la libraire, qui sait mettre en valeur sa précieuse marchandise. Ce monde disponible pour nous informer, nous orienter, nous confier ses coups de cœur à la façon d'un ami proche. Le libraire actuel ne se compte pas de présenter les livres, de les annoter de petits mots, il rapproche aussi l'auteur de ses lecteurs, avec des séances de dédicaces dans la librairie, par exemple. Les libraires indépendants collaborent aussi parfois avec les médiathèques à l'occasion de la théâtralisation, de la projection ou de la lecture d'un ouvrage au public. Et c'est pour eux autant d'occasions de diffuser des livres et de les faire connaître. Parfois, les libraires ajoutent une activité complémentaire pour améliorer l'accueil des clients comme un salon de thé, comme nos invités de la place 26. Et comme on le voit, le métier de libraire aujourd'hui ne consiste pas à dépoussiérer les étagères pour atteindre la perle horaire. C'est un métier vivant qui suit l'actualité et même l'anticipe. Éclairant toutes les réalités et tous les rêves, le libraire est au four et au moulin. Il est un guide, un phare dans la profusion des éditions, la variété des sorties et les sempiternels prix littéraires. Oui, il faut sauver nos libraires, lui qui nous sauve de l'ennui, des écrans et qui contribue à notre intelligence et au final à notre liberté.
C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons pour évoquer les libraires indépendants Véro et Chris de la librairie Place 26 à Douvres et Stéphane Godard de l'univers BD à Caen. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire votre librairie ? On va commencer par les Douvrais.
C'est une librairie café et le côté salon de thé est au milieu des livres. Je te laisse parler pour la suite.
Eh bien, c'est aussi un lieu de rencontre, puisque par nos animations, beaucoup de gens viennent se présenter pour boire un café, rencontrer des gens qui choisissent un livre, et tout un tas de choses autour de ces animations, club de lecture, rencontre d'auteurs. Et on organise aussi au sein de cette librairie, toujours dans un but de faire découvrir une librairie, on organise aussi des apéros dînatoires. Une fois par semaine ou deux fois dans le mois.
Il y a des concerts aussi ?
Oui, des concerts, des spectacles vivants, du théâtre, des lectures musicales.
Des musiciens locaux en général qui nous suivent depuis 4 ans maintenant, parce que ça fait 4 ans que nous sommes ouverts, et on les fait venir chaque année. Chaque année, c'est un vrai succès.
Et toi, Stéphane ?
Alors moi, la librairie, bon, déjà, elle a de l'âge, hein. Elle a 28 ans maintenant, donc c'est pas une petite, entre guillemets. Mais non, librairie spécialisée BD, elle a son étage, elle touche tous les univers en fait, de la bande dessinée, que ce soit le manga, le comics, la bande dessinée franco-belge classique, et en allant parfois sur les choses un peu plus pointues. Et de la même façon, alors c'est drôle, on se retrouve un peu sur le côté animation, parce que nous aussi, on aime créer le lien aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes et primordiales pour la librairie, notamment alors apéro ordinatoire, j'ai fait une fois, mais apéro dédicace, ça a été fait. Mais c'est vrai que ma formule, moi, c'est plutôt le petit déjeuner BD, où je fais se rencontrer en fait les auteurs et les clients tout simplement. Et puis dédicace, ça arrive aussi, et ça c'est plus conventionnel et c'est réservé à un autre créneau.
Et quel genre de public vous touchez ?
Alors nous, tous les âges. On entend dire que les jeunes ne lisent pas, mais c'est pas ce qu'on constate. On voit des jeunes lecteurs tout petits, dès la maternelle, des enfants qui dévorent jusqu'au CM2. Et c'est vrai qu'il y a un petit creux vers la quatrième, troisième, mais on a beaucoup de jeunes qui lisent à partir du lycée. Et puis de tous les âges, globalement quand même pas mal de femmes, plus de femmes que d'hommes. Mais on a des clients, et puis donc au niveau géographique, des gens de Douvres jusqu'à Ouistreham, Courseul d'un côté, Caen de l'autre.
Oui. Alors nous sommes quand même une librairie généraliste, mais effectivement on constate que le public masculin, lui, se dirige plus sur l'univers de la BD, parce qu'on a évidemment un petit rayon BD qui est plutôt sympa aussi, et on découvre finalement des grands lecteurs de BD qui ont très probablement plus de BD à leur domicile que... Quel alimari.
Alors moi c'est marrant parce que j'ai pas tout à fait le même profil. Alors oui, effectivement, une clientèle qui est très variée. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'appelle Univers BD, hein, c'est toucher tout le monde, mais vraiment tout le monde. Par contre moi j'ai vraiment une part égale en fait, c'est-à-dire public féminin, masculin, il n'y a pas une parité, on va l'appeler comme ça, une parité qui s'est fait dans le public. Alors ça vient peut-être aussi du fait que nous on fait tout sur les thématiques, donc ce qui fait que chacun y trouve son compte sur plein de créneaux totalement différents, y compris sur des choses comme féminisme et société, qui est un rayon qu'on a fait évoluer depuis 15 ans maintenant. Et où on voit des gens qui n'allaient pas en librairie SPBD en fait, qui ont trouvé des accroches qu'ils n'arrivaient pas à trouver ailleurs par exemple. Donc c'est vraiment ce créneau effectivement qu'on a, et de la même façon les gens ne lisent plus, bah non c'est faux, on a plein de monde, je dirais même que d'une certaine manière on a de plus en plus de monde, mais des gens qui maintenant n'hésitent plus en fait, ils vont peut-être lire qu'un livre, qu'une bande dessinée, mais au moins ils n'hésitent plus à passer le seuil d'une librairie indépendante pour justement pour trouver celles qui vont lui convenir. Et c'est ça notre rôle, c'est être prescripteur, faire découvrir aux gens en fait ce qui, un temps donné, va leur convenir et va leur ouvrir en fait quelque chose. Après, à eux de faire leur chemin et de voir ailleurs s'ils ont envie. Ça, c'est leur parcours personnel.
C'est ce qu'on constate aussi avec l'essor du roman graphique. On a des gens qui nous disent qu'ils se mettent à lire grâce à ce support.
Mmh. Ouais, tout à fait.
Alors, on va passer un petit peu au côté formation et puis un petit peu aussi avoir un peu votre parcours. Alors, comment on devient libraire? Et en même temps, du coup, une deuxième question, c'est deux en un. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours jusqu'au fait que vous êtes devenu libraire?
Vous avez deux jours devant vous.
Pardon.
Vous avez deux jours devant vous.
Deux minutes.
Et qui commence?
Ouais, vas-y, j'y vais.
Bon, ok. Alors, déjà, moi, j'ai un parcours totalement atypique. En fait, je suis venu à la librairie par passion. Je suis client avant toute chose. J'ai quasiment vécu la création de cette librairie, en fait, en tant que client. J'ai fait du droit. Je me suis réorienté, en fait, sociologie, où est-ce que j'ai suivi jusqu'au DEA, en fait. Et je continuais par en même temps que je donnais des cours de renforcement scolaire, j'avais un petit contrat de temps en temps avec pour la librairie. Et puis un jour, en fait, l'ancien propriétaire m'a appelé en me disant: écoute Stéphane, est-ce que tu veux un CDD tiers temps? À l'époque, ça se pouvait, on pouvait faire des CDD tiers temps. Je lui ai dit banco. Mais en fait, je suis toujours là, j'ai racheté la librairie, j'ai continué, et puis maintenant j'y insuffle encore plus ma patte. Je suis pas du tout un parcours typique. Et ce qui est assez drôle, c'est que je prends des gens qui n'ont pas de parcours typique. C'est-à-dire que mon bras droit, Mathilde, est issue de la Poste. Je viens de recruter pour l'instant en CDD quelqu'un qui est suivi d'un, en fait, qui était en parcours d'échec scolaire, en fait, Leïla, et en fait elle est faite pour ça. Moi, avant la compétence, je cherche l'état d'esprit, parce que c'est ça qu'on va transmettre en fait aux clients, et les compétences, ça s'acquiert, un état d'esprit beaucoup moins.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai une formation littéraire. Et puis j'ai été 10 ans journaliste de presse écrite, ensuite 15 ans instit. Et là, je suis maintenant libraire à temps plein. J'ai pas eu de formation à la base, j'ai appris sur le tas. Et là, je suis des formations en formation continue. Mais je pense que j'ai transféré des compétences que j'avais de mes autres métiers ou de mes passions pour être libraire.
Alors pour ma part, moi, j'ai plus une formation sur la gestion d'entreprise. Ce qui tombe bien du coup, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une librairie est un commerce, mais c'est aussi avant tout une entreprise. Et le lien du souhait de Véro d'ouvrir une entreprise et de moi de me reconvertir, parce qu'avant j'étais salarié, hein, j'étais dans le transport, d'être mon propre patron, d'être entrepreneur, parce que si on ne crée pas une entreprise comme ça, en arrivant, je veux faire ça, et puis, on ouvre. Non, il y a toute une grosse démarche à faire au préalable. Donc, comme je disais, le lien avec Véro, qui avait envie d'ouvrir une librairie, moi qui avais envie d'être entrepreneur, on a su créer ensemble ce lieu à Doula Délivrante. C'est comme ça que c'est venu.
Ouais, c'est un état d'esprit, t'as raison. Il faut l'envie. Mais l'envie de transmettre et de lire suffit pas. Il faut les épaules pour être en comptabilité, en management, en droit du travail.
Moi, je dis souvent, il faut marier la chèvre et le chou, en fait. C'est un univers qui est très complexe. Il faut savoir faire beaucoup de choses. Il faut avoir un mental de... Je dirais pas de guerrier, parce que c'est pas le but, mais il faut avoir un très gros mental, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut assumer derrière.
Ouais, qu'il faut prendre en compte aussi.
C'est ça. Et on est entrepreneur, on est... On dirige des sociétés, on est vraiment sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'il faut surtout pas que le lecteur voit ou la lectrice voit, c'est le mauvais côté, c'est tout le côté commercial. Nous, notre but, c'est de faire disparaître ça. Mais par contre, ça, nous, on doit l'assumer. Et aussi bien pour le positif que le négatif.
C'est parfait, on a des invités géniaux parce qu'ils répondent aux questions qu'on leur pose. Je voulais vous demander quelles sont, selon vous, les qualités d'un bon libraire. Donc vous avez commencé à y répondre. Et on a envie de savoir, parce que nous, on sait comment on vit, mais la semaine type d'un libraire, c'est quoi?
ça s'arrête jamais, je trouve. Ouais. Ça fait partie de ces métiers. On ramène du boulot à la maison, ne serait-ce que par passion, parce qu'on est, je ne sais pas vous, les garçons, souvent en veille. On écoute une émission, on lit quelque chose, le journal, nos yeux se promènent dans le paysage urbain et ça nous donne une idée d'un prochain achat, d'une prochaine commande ou d'un sujet auquel s'attacher pour une commande.
Oui, ou d'une animation.
Ou d'une animation. Ouais, on entend un groupe, on voit un spectacle et on se dit « Ah, si ça serait bien ici, là », ou un partenariat avec telle structure. Et puis, sinon, ça ressemble au fait de tenir une boutique comme n'importe quel commerce, j'imagine, avec des journées de livraison de marchandises, de réception, mais pas que.
De mise en rayon, de rendez-vous avec les représentants, de faire des sélections, des choix. Et puis, effectivement, on est toujours en veille, tout le temps. Mais ouais, quand on aime, en fait, on se rend plus compte de tout ça. C'est notre quotidien et les jours défilent.
Donc, vous répartissez les tâches avec vos employés?
Je ne sais pas, est-ce que ça tient à la taille de la structure, mais on n'a pas vraiment de spécialité.
Non, je pense, moi je suis assez d'accord avec ça, en fait, pas de spécialité, et je pense que plus la structure est petite, par contre il y a quand même une taille, mais plus la structure est petite, je dirais qu'en dessous de 10, on est encore dans une zone où en fait tout le monde doit pouvoir savoir presque tout faire.
Polyvalent, ouais.
Si la polyvalence n'est pas là, en fait, on aura, alors je vais être très méchant, on n'aura pas un vrai libraire en France, parce que en fait, un jour il tournera face à quelqu'un qui va lui demander quelque chose de très précis, et soit il ne saura pas faire, soit il ne saura pas répondre. Et en fait, c'est pas ça que demande quelqu'un qui vient en librairie indépendante. Donc non, il faut énormément de polyvalence. C'est vraiment le truc important, savoir tout faire.
Quand on a des employés qui passent en alternance dans des écoles de librairie et qui nous disent « Oui, mais nos profs aimeraient bien qu'on prenne en main qu'un rayon », c'est aussi parce que dans la promo, il y en a qui sont à Cultura ou à la FNAC et ils sont que dans un rayon. Mais en réalité, dans la plupart des librairies indépendantes, non, il faut pouvoir parler de tout.
Alors, pour terminer cette première partie de l'interview, la Covid a dû être une période difficile pour vous, comme beaucoup de monde. Et comment s'est passée cette période assez rapidement et paradoxalement? Et j'ai lu que en 2022, il y avait eu un nombre record de création de librairies. Alors, que pensez-vous de cette période et est-ce que ça perdure encore cette période, selon vous, cette période un peu faste, on va dire?
Alors, pour nous, effectivement, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on a ouvert en juillet 2019 et en 2020, il y avait la Covid. Donc, c'était.
On a dû fermer 6 mois
après.
On a
dû fermer. Mmh. On n'était pas considéré comme commerce essentiel, d'autant plus. Donc, du coup, on a mis en place. Alors, le site était déjà ouvert, mais on a mis en place un système de click and collect. Et là, on a vu nos clients revenir faire la queue. Pour pouvoir récupérer leurs livres. Alors, il y a eu deux cas de figure. Il y a ceux qui n'arrivaient plus à lire pendant la Covid et ceux, au contraire, qui ont dévoré, qui n'ont pas arrêté de lire. Et puis, par la suite...
Avec le déconfinement, on a vécu une embellie.
Oui.
Et comme une volonté militante de venir chez nous pour protester contre le fait qu'on ait été considéré comme non essentiel. Et parfois, les gens se détourner des grosses structures comme la FNAC ou Amazon, exprès pour... Et puis, de toute façon, nos collègues commerçants qui vendent autre chose que des livres ont constaté aussi un retour vers le local. Et donc, il y a eu, après le déconfinement, une vraie embellie et un retour du livre et des années fastes. Et pour répondre à ta question, David, non, ce n'est plus le cas.
Alors, je suis assez d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que moi, la petite différence, c'est que la boutique existe depuis longtemps. Et en fait, moi, je me suis battu très longtemps pour faire tourner en fait la boutique sur d'autres facteurs à l'époque où j'étais employé parce que je sentais qu'il y avait un tournant à prendre sans quoi on allait se prendre un mur en pleine tronche et bien m'en a pris parce que ça nous a servi. On était en fait on avait tout ce qu'il fallait pour faire de la vente à distance, pour faire de la résa, tout ça. Donc on était préparé. Donc on n'a pas eu trop de problèmes pour ça. Le problème il a été plutôt la gestion humaine qui a fait exploser en vol l'ancien propriétaire qui en pouvait plus en fait. Il était temps qu'il prenne sa retraite. Pauvre. Mais ça c'est de l'humain. Maintenant sur la deuxième partie, effectivement, le côté est-ce qu'il y a eu une embellie? Oui, il y a eu une embellie. Il y a eu aussi un truc, c'est que premier confinement, l'analyse elle est assez simple. Les gens tout le monde était bloqué chez soi. On bouffait de la télé, de l'écran, etc. Il y a eu un écœurement mais total de ces écrans et on s'est retrouvé avec des gens qui venaient Ouais, je veux quelque chose. Au point d'avoir des gens en fait qui nous appelaient pour dire un conseil, etc. Et voilà. Et ça a continué après. Je pourrais même aller plus loin en disant que c'est un double renforcement parce que aussitôt après on a eu le pass culture. Et en fait, on a vu les gens qui ne, en fait, qui lisaient sur écran, etc., se retourner vers le papier parce qu'ils pouvaient avoir accès à. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de plaisanteries sur le pass manga, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de clients. En fait, ça a été transformé, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont devenus des clients qui n'en étaient pas et, et qui sont passés assis à d'autres médias.
Et puis le passe manga, pourquoi pas? Après tout, le manga est un livre.
C'est un livre.
C'est un livre et avec toutes ses lettres de noblesse. On a vu aussi, c'est vrai, peut-être un effet du confinement, de beaucoup de parents qui voulaient de livres pour occuper les enfants, ou alors qui constataient en ayant fait l'école à la maison à quel point leur enfant lisait mal ou tout haut, et donc ils se sont dit, oulala, il est temps que je lui mette des livres entre les mains.
Merci. Alors, on va faire une première respiration musicale. Et pour ça, on vous avait demandé un choix. Et vous nous avez proposé You Never Can Tell de Chuck Berry, qu'on entend dans Pulp Fiction, qui est un film qui vous a marqué, je crois.
Oui. Tarantino.
Tarantino. Hein.
Tarantino. Non.
L'univers Tarantino.
Impossible de l'oublier.
Le personnage.
Dans notre quotidien, bon, pas tous les jours, hein, faut pas exagérer, mais cette fantaisie. Et puis alors, toi, tu as une BD que tu aimes beaucoup et justement, ça te fait penser à cette.
Ouais, il faut flinguer Ramirez, que j'adore.
C'est comme une maison,
ça. Voilà, donc j'adore Tarantino, j'adore l'univers Tarantino. Et puis, bah, quand j'ai découvert Ramirez, top.
The teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say the old folks, you go to show you never can tell.
Alors avant de retrouver nos invités, Lise a arpenté les rues de Caen pour interroger nos concitoyens sur le thème du jour.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pitch ton territoire, la chronique qui vient découvrir les avis, habitudes et envies des habitants et usagers du territoire sur nos sujets divers et variés. Aujourd'hui, je suis allée rencontrer les lecteurs et lectrices à la sortie de différentes librairies et zones commerciales pour les interroger sur leur choix de lecture et surtout leur demander quelle place occupent les librairies indépendantes dans leurs habitudes. Une chose que je retiens déjà, c'est que le sujet du livre, ça donne le smile. J'ai rencontré plusieurs personnes qui repartaient avec des livres jusqu'aux oreilles et un sourire sous le bras. L'inverse. Enfin bon, quoique. Et j'ai été impressionnée par la fréquence de leur passage en librairie. Une fois par semaine, en moyenne. 80% des personnes rencontrées allaient en librairie indépendante, voire les deux. Et je vais commencer par les personnes qui sortaient de la FNAC au centre Paul Doumer. Pourquoi choisir cet espace? On écoute Cassandre, étudiante, future institutrice.
Parce que la FNAC, c'est quand même la librairie que je dirais est le plus facile d'accès. Là, j'ai pris un livre d'art, mais d'habitude, je regarde plutôt aussi les mangas. Donc c'est là où ça peut combiner les deux, en fait. Enfin, plusieurs choses que j'aime.
C'est plutôt donc le côté hétéroclite qui se trouve sur les étagères de la FNAC qui semble avoir du poids dans son choix. Et puis après, j'ai rencontré Nelio, qui étudie en licence de maths, et qui me parlait plutôt d'un mode de consommation différent, où il commence par chercher sur Internet en espérant trouver moins cher.
Très casanier, donc je reste souvent chez moi, mais au niveau des librairies, je vais pas trop, parce que je connais pas trop, donc... Voilà, donc souvent je regarde sur Internet et à la FNAC parce que je sais qu'il y a beaucoup de mangas à la FNAC, donc c'est plus simple pour trouver, mais en fait je regarde là où ça vaut moins cher pour pouvoir venir.
Et Nelio n'était pas le seul à me parler de la commande en ligne ou le fait de faire ses recherches auparavant. C'était le cas aussi de Evan, qui cherche des éditions particulières de livres qui n'existent parfois plus ou qu'on peut trouver en seconde main, mais justement qu'on va trouver dans les librairies spécialisées qui font un certain choix. Et c'est donc là que les librairies indépendantes commencent à jouer un rôle très fort.
Le réflexe quand vous cherchez un livre, c'est plutôt quel magasin du coup ?
Du coup, libraire, comme le Brouillon Culture. Mais je me suis renseigné quand même avant de venir pour savoir si j'allais pouvoir trouver d'autres éditions sur le manga Aquabulle, si je me trompe pas, qui a un compte Instagram qui poste souvent des offres et des nouvel arrivages que j'invite très fortement à suivre. Il y a souvent des petites pépites ou des éditions limitées ou éventuellement des numéros qui ne seraient pas référencés sur d'autres librairies. C'est très intéressant. Ou qui récupèrent aussi d'autres personnes qui viennent déposer des livres en don ou en revente.
Pour Florence, maman de deux enfants, les librairies indépendantes sont un espace où recevoir des conseils personnalisés puissants pour la découverte de nouveaux livres, auteurs, genres.
Moi j'aime les gens qui savent ce qu'ils vendent et qui savent parler. Là c'était un peu différent, je suis allée pour mes enfants qui lisent des mangas et qui m'avaient fait une commande pour un anniversaire. Et du coup le monsieur qui est passionné par ces mangas m'a indiqué deux mangas que finalement j'ai acheté pour moi, qui sont des policiers, puisque j'aime les policiers, et que je lui ai dit, j'aime pas les mangas, mes enfants ils m'ont montré les mangas, j'aime pas ça. Il m'a dit, ceux-là vous aimerez. Et il m'a aussi conseillé donc deux livres d'écrivains japonais que je vais aller acheter au Brouillon de Culture.
Et ça vous a fait découvrir une série de,
totalement,
de
là, oui.
Mangas que vous auriez pas découvert sans ça.
Absolument.
Ouais. Contact avec les patrons, les gérants, parce que voilà, c'est forcément les mêmes personnes qu'on voit à chaque fois, etc. Comme je vais plusieurs fois dans les mêmes magasins, en fait, finalement, ils finissent un petit peu par me connaître. Et puis aussi, j'aime bien simplement aussi l'ambiance qu'ont ces magasins, parce qu'effectivement, la FNAC, c'est un magasin qui est très propre, rangé, alors qu'il y aura certaines librairies où, en fait, les livres vont jusqu'au plafond, etc. C'est assez pittoresque, donc j'aime bien aussi.
Et donc, Florence est sortie de BD Art avec vraiment un très, très grand sourire, et on sentait que c'était un choix important pour elle d'aller dans ces espaces-là où elle allait rencontrer des commerçants qui parfois la connaissent déjà ou qui ne la connaissent pas mais qui connaissent très 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 bien leur rayon. C'était aussi ce dont me parlait Gérard, qui lui habite en dehors de la ville de Caen mais qui vient quand même régulièrement au centre-ville et pour qui le choix de la librairie indépendante est aussi un choix économique.
Ah, puis j'ai envie aussi de faire vivre les librairies indépendantes. Voilà. Il y a la chance maintenant à Verson, qui est juste à côté de chez moi. Il y a une petite librairie qui vient d'ouvrir, ça fait un an maintenant.
D'accord.
J'y vais régulièrement commander des livres aussi.
Donc pour la commande, ça fait un espace relais assez proche de chez vous.
Oui, voilà.
J'ai appris beaucoup de choses lors de ce micro-trottoir, et une dernière information que je retiens, c'est que les gens continuent d'acheter des livres alors qu'on ne cesse de parler de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Plusieurs personnes m'ont mentionné le fait qu'elles allaient aussi à la bibliothèque, emprunter, etc. Mais quand ils empruntent, me disent-ils, c'est plus par manque d'espace à la maison, avec les livres qui vont jusqu'au plafond, qu'un manque de billets dans le porte-monnaie. Mais est-ce que les personnes aujourd'hui achètent le même type d'ouvrage ? Moi, la question que je vais vous poser maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que les lecteurs et les lectrices viennent avec le même budget ? Est-ce qu'ils achètent des ouvrages moins coûteux ? Est-ce que ça peut changer finalement ? Est-il vrai qu'on peut trouver beaucoup moins cher sur Internet, comme le disait l'étudiant en maths qu'on a rencontré au début ? Je serais avide d'avoir vos réponses en plateau.
Merci Lise. À très vite pour un nouveau rendez-vous de Pitch ton territoire. Maintenant, nous allons poursuivre notre émission avec Thomas, qui a décidé de partir en croisade contre Amazon. Vas-y Thomas, nous assurons tes arrières.
Merci Alain. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'Amazon. Alors quelques bonnes raisons pour boycotter cette industrie tueuse de commerce, tueuse de culture. Alors avant de vous expliquer pourquoi, petit rappel sur la spécificité de notre cher pays. En France, depuis 1981, nous avons la loi Lang sur le prix unique du livre. Alors cette loi protège les libraires, elle permet d'éviter ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ou en Angleterre, où les librairies disparaissent chaque semaine. Alors pour faire simple, l'éditeur fixe librement le prix et l'imprime sur le livre. Il devient ainsi le même partout, que ce soit à la FNAC, dans les librairies de quartier et sur les sites en ligne de livres neufs, etc. Avec cette loi, on pense que les librairies sont sauvées. Eh bien, pas tellement, puisqu'aujourd'hui, les sites internet marchands, donc Amazon, FNAC, ou les petits sites marchands de votre libraire, etc., sont montés à 21,9% de part de marché. Alors le problème étant que les grosses firmes qui pèsent lourd, que j'ai cité tout de suite, Amazon, Fnac, ont une logistique bien rodée et jouent sur la vente en ligne pour écraser le marché en accordant la gratuité de la livraison. Alors si on pousse le raisonnement, on peut aussi s'attendre à une volonté de la part d'Amazon de casser le marché pour obtenir le monopole et ensuite pratiquer leurs propres conditions. Ce qui est gratuit aujourd'hui chez eux ne le sera sans doute pas demain. Alors, en réaction à cette situation, l'État impose depuis octobre 2023 l'obligation d'un coût de livraison de 3 euros. Alors, c'est déjà une avancée, mais cela reste toujours plus coûteux pour une librairie indépendante d'expédier un livre acheté sur son site. Alors bon, vous me direz, c'est moins cher chez Amazon, quel intérêt de commander ailleurs ? Eh bien, pour plusieurs choses. Alors, commander sur Amazon, c'est faire une croix sur les commerces de proximité. Les librairies sont aujourd'hui indispensables à la vie d'une commune. Elles offrent aux habitants un service culturel de proximité et animent un village, un quartier, de par les événements qu'elles peuvent organiser ou simplement de par le fait d'être un lieu ouvert où l'on peut croiser de vrais gens. In real life. Commander sur Amazon, c'est aussi cautionner des emplois précaires. L'entreprise viole en permanence les droits fondamentaux de son personnel et exerce une pression constante à l'égard des employés. Mais pas que. Une pression constante aussi envers la chaîne éditoriale. De par leur puissance de frappe, ils imposent d'énormes remises aux éditeurs, 10 à 15% de plus que les remises allouées aux librairies. Alors, petite parenthèse, est-ce que j'ai besoin de faire le parallèle ? Mais je le fais quand même. La grande distribution fait la même chose avec les coopératives, avec les agriculteurs. Bon, vous avez compris le principe. Bon, heureusement, Amazon paye bien ses impôts. Ah bah non, je déconne, c'est tellement drôle. En 2021, c'est quand même 51,3 milliards de chiffre d'affaires sur le sol européen. Et grâce à une stratégie d'optimisation fiscale bien rodée, ils n'ont payé aucun impôt. Bravo Amazon. Troisième point. Commander sur Amazon, c'est prévoir à terme la mort de la diversité culturelle. Alors un exemple parmi tant d'autres, la mise en avant des livres. Sur Amazon, les bouquins mis en avant sont les meilleures ventes, les grands auteurs, les grandes autrices. On bannit la curiosité. On fait tout pour qu'en quelques clics, vous puissiez faire votre achat mainstream, grand public, le courant dominant. A l'inverse, chaque librairie a son identité. On retrouve du classique, du populaire, mais pas que. Il arrive régulièrement que les salariés rendent visibles sur les étals leur coup de cœur. Et évidemment, on peut aussi demander à être guidé quand on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. Donc oui aux librairies, non à Amazon. Mais j'en ai pas fini. Je vais m'attarder rapidos sur les risques que l'on encourt en commandant chez eux avec deux exemples qui peuvent nous montrer de quoi est capable la firme. Alors exemple, en 2019, Amazon se fait épingler après avoir compliqué l'accès à une liste d'ouvrages gays et lesbiens, dorénavant qualifiés d'ouvrages pour adultes. Alors des centaines de livres n'apparaissent plus lorsqu'on faisait une recherche thématique. Les œuvres n'ont pas été retirées de la vente, mais il fallait spécifier le titre de la recherche pour le retrouver. C'est en quelque sorte une censure déguisée. Les internautes à l'époque s'indignaient de voir que l'ouvrage « Homophobie, une histoire » a été retiré des listes grand public, alors que le guide pour empêcher son enfant de devenir homosexuel a été maintenu dans ces mêmes listes. Deuxième exemple beaucoup plus récent, comme l'ont remarqué certains internautes, Amazon a supprimé des commentaires négatifs sur le livre de l'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran. Le livre s'appelle « Par-delà les vagues ». Alors, quelques jours après la sortie du livre d'Olivier Véran, qui évoque son vécu de la crise du coronavirus, les internautes ont remarqué un drôle de manège sur la page d'Amazon permettant d'acheter le bouquin en question. Alors, capture d'écran à l'appui, il rapporte que les commentaires négatifs ont été supprimés pour ne laisser que les commentaires élogieux qui donne la note maximale de 5 étoiles. Alors pour autant, le géant de la vente en ligne se défend de toute forme de censure et avance avoir simplement appliqué sa politique de modération habituelle. Bon, pour conclure, je vous rassure, les librairies se portent encore plutôt bien. D'après le syndicat de la librairie française, nous comptons aujourd'hui 3500 librairies indépendantes, un chiffre en hausse porté par la bonne santé du marché du livre, on en a parlé en début d'émission. Conclusion. Acheter sur Amazon, c'est vous tirer une balle dans le pied. Acheter en librairie et vous continuerez à phosphorer.
Bah merci Thomas. J'avoue que j'applaudis des trois mains, quatre, même cinq. Et je partage ton indignation et je crois qu'on la partage tous autour de cette table.
Oui, il y a aussi un effet volume qui peut nous nuire. On a eu encore l'exemple cette semaine de... Des clients qui viennent nous commander un livre, il apparaît en rouge sur notre logiciel, il est marqué indisponible. Et eux savent, par le biais de l'auteur, que Amazon en a commandé une palette. Donc leur façon d'en commander des centaines ou des milliers fait qu'ils nous réduisent la possibilité de le commander pour nos clients.
Alors justement, avant de revenir à l'interview proprement dite, peut-être aussi des réactions par rapport au micro-trottoir de Lise. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oh bah, moi, pour moi, tout de suite, c'est le truc sur lequel il nous a tous fait bondir autour de la table, mais c'est le combat habituel. C'est-à-dire qu'il y a encore une méconnaissance de cette loi langue. C'est-à-dire que beaucoup, et c'est même pas une question d'âge, parce que alors c'est très drôle que ce soit un mathématicien, un étudiant en mathématiques qui dise qu'il cherche le prix le moins cher. J'ai trouvé ça très, très, très drôle. Parce que oui, ça arrive, mais ce n'est que de l'occasion, ce n'est pas du livre. C'est hallucinant de voir que malgré les communications, malgré le fait que ce soit imprimé maintenant sur le dos de la majorité des livres, que le prix est un livre unique... En fait, c'est une ignorance totale autour de
cette loi. Les gens croient
que
c'est plus cher en boutique, alors que c'est le même prix partout en France.
Alors, on va continuer nos questionnements. Est-ce que vous pouvez dire que votre librairie, vos librairies, ont une forme d'identité particulière que vous défendez ?
J'en suis certaine. Même si on essaye de se dire qu'on est le plus objectif possible et qu'on prend de tout. Je pense que c'est un atout. Tu parlais tout à l'heure, Stéphane, du fait que tu avais une offre féministe dans tes BD. Mmh. Les premières années, Christophe, où tu étais à la librairie, tu faisais seule les commandes. Et quand je suis arrivée, on a fait les commandes à deux. Et je pense qu'il y avait, sans vouloir genrer à tout prix, un regard féminin, un regard masculin ou un regard selon nos sensibilités en tant qu'être humain et qui fait que maintenant on propose des choses différentes. Et par ailleurs, quand on a un employé, une employée de 23 ans, elle va pas vers les mêmes titres que nous. Et donc, même si on se dit qu'on vend de tout, qu'on est généraliste, à mon avis, on met notre patte, même si c'est inconscient.
Moi, je vais faire mon sociologue, mais l'objectivité, ça n'existe pas. Mmh. Au mieux, on peut être complet, mais l'objectivité, on est forcément subjectif d'une manière ou d'une autre. Donc, on met systématiquement notre patte. Et c'est là la spécificité de la librairie. C'est-à-dire que c'est un peu de nous qu'on insuffle, mais on va la modérer avec, si on est honnête, les retours clients, mais aussi avec les collaborateurs et collaboratrices avec lesquels on est. C'est un travail d'équipe, au final. Hein. C'est un travail d'équipe, mais dans lequel on est tous ensemble. C'est-à-dire l'équipe en elle-même de la librairie, mais le client aussi. C'est lui aussi qui nous donne... parfois, il y a des trucs, on fait un pas de côté, on se plante, soyons clairs. On a pensé à un truc, et puis on a des retours, on dit... Ah ouais, en fait, non, ça va pas, en fait. Il faut repenser au truc. Mais bon, par contre, ça veut dire qu'il faut être capable de se remettre systématiquement en question.
Oui.
Comme tu disais tout à l'heure, par rapport au Pass Culture, effectivement, nous, on a pu déployer notre rayon manga, puisqu'on a tout un tas de jeunes qui s'est présenté à la librairie, et je leur demandais même, moi, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans la librairie la prochaine fois qu'ils franchissent la porte. C'est comme ça qu'on a développé notre rayon à ce niveau-là. Alors, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Véro, c'est... On a chacun notre patte, mais on est aussi très à l'écoute de clients et on module un peu nos curseurs selon notre clientèle. Parce qu'on a aussi, nous, la chance d'habiter, ou pas, hein, dans une petite commune de 5000 habitants qui bouge beaucoup. Donc on a des nouveaux clients qui nous découvrent encore au bout de 4 ans. Donc on bouge aussi nos choix, nos achats par rapport à ce que nos clients aimeraient trouver en franchissant la porte.
Oui, bien souvent ils viennent commander, on leur dit « je connais pas » ou « j'en ai pas », ça parle de quoi, ça a l'air bien. On en prend un pour nous. Et ça fait partie des sources qui nous permettent de commander. Il n'y a pas seulement ce dont on entend parler ou ce qu'on aime.
Non, au contraire. C'est, encore une fois, hein, c'est une espèce d'un esprit d'ouverture. Et c'est ça, le livre, de toute manière, est une ouverture physique et mentale.
Alors, vous nous avez parlé de vos choix et de vos préférences, etc. Moi, j'ai une envie de vous poser une question. C'est comment on arrive à, vu que les journées ne font que 24 heures et qu'elles ne font que 60 minutes chaque heure, qu'on dort un peu, comment on arrive à donner des conseils de lecture aux gens, comment on arrive à avoir des coups de cœur quand on voit la production qu'il y a et quand on voit, comme moi je vois le temps que je mets pour lire un bouquin, vous faites comment ?
Alors moi, je suis schizophrène.
Les deux.
Non, c'est-à-dire que... j'ai le... l'avantage, ça va être très bizarre ce que je vais dire, j'ai l'avantage d'être dyslexique. Donc ça, j'ai un cerveau qui ne fonctionne pas de la même façon. Donc depuis très longtemps, je suis obligé d'avoir accès à des méthodes compensatoires, etc. Mais ça a développé chez moi une très grande mémoire. Et comme on disait souvent, c'est moi, je ne vais pas d'un point A à un point B, je vais à un point A à un point B, mais en passant par Z. Donc en fait, ce qui fait que je stocke beaucoup d'informations et que quand j'ai fermé un livre, en fait, je continue à le lire. Donc c'est ça qui me permet en fait d'y penser continuellement, de continuer un petit peu à faire la chose. Et cette sélection, elle se fait un peu naturellement. Mais la deuxième chose aussi, j'ai schizophrène parce que en fait on a, alors je sais pas pour vous deux, mais moi j'ai une lecture plaisir et j'ai une lecture professionnelle. Quand je lis quelque chose pour la librairie, j'ai un album qui arrive. Je l'analyse en fait, c'est-à-dire que je recherche qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est bon dedans, qu'est-ce que ça peut toucher dans ma clientèle. Et à partir de là, en fait, j'ai une lecture qui va être moins plaisir, mais où je vais pouvoir en ressortir vraiment ce qui est original et me dire « Ah oui, ça c'est vraiment un coup de cœur, ça c'est un truc qui est marquant, voilà, ça je vais le mettre en avant ». Par contre, je le matine aussi des retours que j'ai de mes collaborateurs. Ça, c'est comme ça qu'on travaille la chose.
Personnellement, je lis quand je peux 2 à 3 romans par semaine. Et le week-end, on fait le stock de BD, de romans graphiques. On en lit environ 3-4 minimum. Mais c'est vrai que Stéphane, tu as raison. Je dissocie lecture plaisir et lecture pro, même si parfois ça va ensemble. Je pense que c'est ma formation aussi, ma formation scolaire et mes métiers précédents. J'arrive à lire en diagonale. Ça ne veut pas dire que je lis un mot sur deux, mais je peux lire très vite si nécessaire. La nuit me sert aussi à lire sur liseuse et la journée. Donc j'ai souvent 2 ou 3 livres en même temps.
Alors après, il y a aussi pour ma part, moi je lis, j'aime bien la BD, hein. Donc les BD, je peux les lire assez facilement et assez rapidement. Pour ce qui est des romans, j'en lis quelques-uns, mais c'est plus facile aussi avec les outils qu'on a aujourd'hui d'avoir un condensé et qui va nous diriger sur nos choix, et puis sur le tas de choix qu'on peut avoir, en sélectionner un et puis finalement tomber pile dedans. Alors évidemment, on peut aussi se tromper, hein, avec le nombre de sorties qu'il peut y avoir à l'année, mais c'est comme ça que moi je fais ma sélection à la librairie.
On essaie d'avoir des relations aussi. Quand on reçoit des représentants, c'est des commerciaux. Ils sont là pour nous vendre les livres. Ils représentent plusieurs maisons d'édition. Mais surtout ceux avec qui on a rendez-vous physiquement et avec qui on passe 1h30 par mois, eh ben, ils commencent à connaître notre clientèle, nos goûts. Et parmi les 150-200 du catalogue des 2 mois, des livres qui vont paraître dans 2 mois, ils nous proposent certains. Et nous, on a un argumentaire. Et là, on peut voir si ça nous attire, la couverture ou pas. Alors évidemment, on peut se tromper. Mais ça compte aussi la relation interpersonnelle qu'on a avec le représentant.
Elle est primordiale. Elle est primordiale parce que si on faisait à distance, on s'abreuverait trop de choses, soyons clairs. Non, ça fait partie, c'est le même relationnel qu'on a avec le client au final. C'est le contact, encore une fois, le contact.
Alors, une petite interrogation. Tout à l'heure, vous avez parlé du pass culture. Alors, je voudrais en savoir un petit peu plus pour nos auditeurs. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais bien savoir ce que vous pouvez mettre en place pour vous démarquer de la grande distribution. Quelles initiatives ? Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, ben nous, en fait, on est une librairie, mais on est aussi une librairie café. C'est-à-dire avec toutes les animations qu'on a pu citer tout à l'heure en début d'interview, la librairie café fait venir du monde pour, avant tout, boire un café. Et de là, ça peut aussi déclencher un coup de cœur sur une BD, sur un roman. C'est ce qui va nous différencier d'une librairie généraliste, simple entre guillemets. Hein.
Et puis aussi, l'idée, c'était dès le début, qu'on soit un café ou pas, qu'il y ait un endroit où s'asseoir. Ne pas être qu'un lieu de passage. Donc la différence aussi avec la grande distribution ou avec certaines librairies où on n'est que debout, c'était que parfois, on a besoin de s'asseoir, de s'adosser, de feuilleter. Et donc, le fait qu'il y ait des sièges ou des tables à disposition pour pouvoir poser une BD, ça incite à prendre le temps, à engager la conversation et à être bien installé.
Alors oui, la question c'est moi. Comment se différencier ? Bah, se différencier par plusieurs petites choses, mais c'est surtout en fait avoir une présence en fait comme libraire, comme entité de librairie, c'est-à-dire pas uniquement être seul. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de confrères. Hein, on en parlait tout à l'heure dans Caen, on est nombreux. Et ben plutôt que de travailler dans son coin, être capable de travailler avec. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai pas quelque chose. La plupart du temps, les gens le cherchent. Bah, plutôt que d'aller vers Amazon, c'est très simple. Bah, y a des sites comme Place des Libraires qui vont vous dire quelle librairie peut l'avoir. Je cherche pour eux. Appeler mes confrères qui sont pas dessus en disant mais est-ce que tu l'as ? Est-ce que tiens, bah, tu peux me le mettre de côté ? Je t'envoie le client. Je l'ai pas, je vous le trouve, tout simplement. Et ça me coûte rien, parce que de toute façon, je l'aurais pas vendu de toute manière. Donc non, au contraire, c'est rendre ce service, qui est un vrai service de proximité, encore une fois du lien, puis d'aller plus loin, c'est-à-dire créer des coopérations entre nous. À titre d'exemple, quand il y a eu la New One Piece qui a été faite, la première New One Piece, on a été seulement deux villes en France à s'associer, Aix en Provence, et quand on a fait un gros truc à trois, à savoir BD Rare et Le Bazar du Bizarre et donc Univers BD, où on a décidé de faire une grande chasse au trésor qu'on a réitéré celle l'année dernière, qui a extrêmement bien marché, qui a plu à tout le monde. Donc non, c'est vraiment être un lieu d'animation, être un lieu de lien, être quelque chose qui soit dans les murs, hors les murs. Au final, on n'est pas juste une entité, on est un lieu où on vient partager de la passion, du plaisir, un moment, un croisement, voire même un café de temps en temps.
Alors le temps passe à une vitesse temporelle. Et donc,
un peu physique quantique peut-être.
En très peu de mots, votre coup de cœur du moment.
À toi Stéphane.
À moi en premier ?
Oui.
Eh ben, c'est celui que je vais mettre demain, c'est Le Chien Gardien d'Étoiles. C'est un manga, mais je suis très content. C'est un manga qui a été paru il y a à peu près 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, chez Sarbacane, qui était épuisé. Et la Pika viendrait racheter les droits. Et c'est un récit qui part d'un fait divers japonais où on a retrouvé une voiture délabrée, un cadavre à l'intérieur, 12 mois qu'il était là, et un chien à ses pieds, sauf que l'analyse montre que bah, le chien est mort il y a trois mois, et pourtant il est au pied du vieil homme. Et l'auteur, en fait, Murakami, a décidé de reconstruire plusieurs histoires, parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires, c'est un recueil d'histoires, mais autour de ce fait divers, remonter le temps, comprendre qui était l'homme, qui était le chien, qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque histoire, en fait, a un lien, soit avec l'enquête, soit avec l'homme, soit avec le chien, soit avec la généalogie. C'est, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas votre petite larme qui tire, je ne comprends pas, mais c'est profond, émouvant, tendre, il y a tout, c'est du doux amer, mais c'est magnifique.
À toi.
Alors moi j'ai plusieurs coups de cœur, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien la BD, j'aime aussi le polar, et j'aime Olivier Norek pour le polar, mais
non,
là j'avais envie de plus...
J'aime Olivier Norek, c'est moi qui l'ai vu en premier.
mais là j'ai plus envie de vous parler, alors un coup de cœur et surtout un album choc, c'est Crayon Noir, c'est sur l'histoire de Samuel Paty, l'histoire d'un prof. Ça m'a marqué, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, donc... très, très rare pour moi, mais là, je me le suis enfilé d'un seul coup, parce que je voulais vraiment savoir et connaître tous les tenants et aboutissants et comment on en est arrivé là. Donc, c'est vraiment un très bel ouvrage choc que je conseille.
Roman graphique, donc, oui. Ouais. Alors, moi, c'est un roman. J'en lis plein et c'est rare que je sois prise à paix, peut-être une fois par trimestre. Et là, j'ai lu Clara, Dans le ventre de Clara. Donc, c'est un roman de Régis Geoffrey aux éditions Récamier. Ça raconte à partir de 1887 la vie de Clara Hitler, femme de et mère de, quand elle est enceinte de plusieurs enfants avant d'être enceinte d'Hitler. Et ça s'arrêtera quand il va naître. Mais ça évoque évidemment comment on aurait pu éviter qu'il naisse, ce qui n'aurait peut-être pas empêché ce qui est arrivé. Ça raconte la vie de cette femme, c'est appuyé sur des faits historiques. Ça se passe donc en Autriche au début. Et voilà, ça n'excuse rien, ça n'explique rien, ça ne veut pas l'expliquer ni l'excuser. Ça raconte juste que cette femme était une femme parmi d'autres en cette fin 19e siècle en Autriche.
Voilà, ben, on arrive à notre deuxième coupure musicale. Alors, j'ai mis en avant un auteur avec le Boris Vian et le Déserteur, interprété par John Baez, ici en live à Paris et à Capella.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne vous fais l'affaire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère est en souffert, qu'elle est dedans sa tombe, et se moquer des bombes, et se moquer des vers. Quand j'étais prisonnière, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, on est les années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bons apôtres, messieurs les présidents. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Alors on va remercier John Baez avec sa superbe interprétation. Et ce soir, Florian va se transformer, pour notre plus grand plaisir, en critique littéraire. Sans plus tarder, écoutons les coups de cœur de Florian.
Alors pour cette émission dédiée aux librairies, il ne sera pas aujourd'hui question de mes habituelles chroniques dédiées aux luttes territoriales, à l'écologie radicale et autres réjouissances militantes. Quoique, allez, un peu quand même, puisque je vais vous faire part de trois de mes récents coups de cœur littéraires. Trois livres aux airs d'écologie profonde qui font cohabiter les abeilles, la terre et le cosmos au travers de trois genres littéraires que sont le récit autobiographique avec Une année à la campagne de la biologiste et bibliothécaire Sue Hubel, publié la première fois en 1988 chez Gallimard. La science-fiction avec le roman Sidération, publié en 2021 aux éditions Actes Sud, sous la plume de l'écrivain Richard Powers, notamment célèbre pour son best-seller L'Arbre Monde. Et enfin, La Fantasy avec Les Livres de la Terre Fracturée, une trilogie de Nora Keita Jemisin, parue entre 2015 et 2018 aux éditions J'ai lu. Pour information, je suis en pleine lecture du tome 3, mais ça ne m'empêche pas de vous en parler un peu. Alors aucun scoop de sortie récente ou à venir, mais après tout, il n'est jamais trop tard pour faire des découvertes. Commençons donc avec le premier livre, Une année à la campagne de Sue Hubel. On y suit l'auteur qui, après avoir décidé de changer de vie et de quitter la société de consommation de l'Est américain, s'est installée avec son mari dans une ferme des monts Ozark, au sud-est du Missouri, pour y élever des abeilles. Sauf que le récit prend son envol quelques années plus tard, après le décès de son mari et un réapprentissage bouleversant de la vie en solitaire, presque autarcique, loin des us de la vie moderne et urbaine. Au fil des quatre saisons, d'après lesquelles le roman est découpé, Sue Hubel, qui n'avait auparavant de la nature que la connaissance théorique d'une biologiste de formation, ne cesse d'apprendre et de se questionner sur ces quelques hectares de collines où la vie a établi ses propres lois, tissant un réseau de dépendance entre tous ses habitants. Les abeilles, les plantes, les insectes, les araignées, les serpents, les oiseaux, les mammifères, les parasites, les bactéries et Sue elle-même. Le livre se dévoile comme un recueil de connaissances scientifiques et empiriques, une ode au pouvoir salvateur de l'émerveillement face aux mille et une manières d'être vivant et de se partager un territoire, une même terre. Un livre qui nous apprend aussi que le monde sensiblement vécu est un bien meilleur professeur que n'importe quel livre de biologie. Spoiler alerte, vous y découvrirez notamment que les abeilles savent danser les cartes et les plans, de quoi foutre une bonne gifle à notre définition de l'intelligence, définition d'où nous sommes, soit dit en passant, à la fois jugée partie. Seconde recommandation maintenant, et dans un tout autre registre, le roman Sidération de l'écrivain américain Richard Powers nous conte l'histoire de Théo Byrne, astrobiologiste qui, depuis la mort de sa femme, élève seul son fils Robin, âgé de 9 ans. Robin est un jeune homme attachant, sensible et passionné, mais qu'on pourrait qualifier de différent, en proie à des crises de rage incontrôlées. Pour l'apaiser, son père l'emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos pour tenter de percer le mystère de l'origine de la vie. Jusqu'au jour où, après une énième crise, Théo est sommé de faire soigner son fils. Refusant la médication, il se tourne vers un neurologue, conduisant une thérapie expérimentale où, par le biais de l'intelligence artificielle, Robin va s'entraîner à contrôler ses émotions et développer son empathie. Cette empathie, Robin l'ouvre au monde et à la nature, dans lesquels il puise une source intarissable d'inspiration, de compréhension et d'épanouissement. Alors, sans jamais mettre les mots sur la différence de Robin, l'autisme, l'auteur nous livre un récit poignant sur le deuil et l'abnégation, mais aussi sur le pouvoir de la curiosité et de la sensibilité, celle d'un enfant singulier, contraint de grandir dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique. Il nous offre par là même un récit cosmique, philosophique et brillant d'intelligence sur le miracle de la vie d'une terre perdue au fin fond de l'univers. Le roman porte bien son nom, puisqu'après de grosses larmes, j'en suis sortie littéralement sidérée. Petite citation d'avant-goût. « Oh, elle était bien cette planète. Et nous aussi, on était bien. Bien comme la brûlure du soleil, la piqûre de la pluie, l'odeur du sol vivant, le chant universel des formes infinies, paraffant l'air d'un monde changeant qui, d'après tous les calculs, n'aurait jamais dû exister. » Avant de terminer sur la sage parole d'un enfant de 9 ans, « T'inquiète pas, papa, nous, on trouvera peut-être pas la solution, mais la Terre, si. » De quoi méditer avant un dernier conseil de lecture, soit l'occasion de plonger dans l'univers apocalyptique de la Terre fracturée, imaginé par l'écrivaine, diplômée de psychologie et militante féministe N.K. Jemisin, dont la trilogie a été triplement récompensée par le prix Hugo. L'auteur nous dresse le portrait d'un monde où la Terre tremble si souvent que la civilisation y est menacée en permanence, condamnée à subir des hivers et des nuits sans fin. Un monde où les orogènes, des humains capables de plonger dans la Terre, d'y dompter les énergies et de maîtriser volcans et séismes, sont craints, discriminés, ségrégés, voire tués. Le thème de la perte et du deuil est encore une fois présent, puisqu'on y suit, entre autres personnages féminins, le périple d'Essoun, orogène parti en croisade contre le monde après que son mari, ayant découvert sa véritable nature, ait tué à main nue son propre fils et enlevé sa fille. Dans un univers captivant, riche et densément construit entre science-fiction et fantasy, avec une intrigue palpitante et non dénuée de suspense, l'auteur nous livre un récit riche et une narration subtile où la stigmatisation et le dogmatisme côtoient une forme de vitalisme philosophique avec des hommes voués à combattre éternellement une planète vengeresse. Saurez-vous déceler une petite allusion réaliste ? Allez, je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, il me tarde moi-même de connaître la fin. Et en parlant de fin, celle de cette chronique a sonné et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures résolument engagées.
Merci Floriane, et nous arrivons en fin d'émission, le temps pour nous de faire une toute petite chronique, Alain, une chronique culturelle.
Agenda culturel, littéraire, et pas que. Quelques infos autour du polar et du mystère, et pas que. Demain, vendredi 9 mars à 18h30, le réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer vous invite à la médiathèque Phénix de Colombelles, 10 rue Elsa Triolet, à une rencontre polar normande. Quand je dis demain 9 mars, c'est demain février. Des auteurs de romans ou de BD proches de nous, Blaise Gian, Arnaud Roquet et Nicolas Sorel ont accepté de nous faire découvrir les coulisses du polar Made in Normandie. C'est pour les ados et les adultes, il faut réserver, c'est gratuit, ça dure 1h30. À découvrir aussi à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, 15 quai François Mitterrand à Caen jusqu'au 17 mars. Bienvenue sur les chemins de la littérature ado, un chemin de découverte de la littérature proposé par Tom et Nathan Lévesque. L'exposition vous propose, je cite, d'entrer sur les terres de la littérature ado et de déambuler sur ses sentiers. Elle invite notamment à se pencher sur les 100 titres de romans incontournables paris en France entre 2000 et 2019, sélectionnés par 100 professionnels du livre. Toute l'actualité de la bibliothèque de Tocqueville sur son site. Toujours au polar et mystère avec le festival Bloody Flory, polar et mystère du 15 au 17 mars au gymnase Auguste Delaune, rue François Mitterrand à Fleury-sur-Orne. Des spectacles, des conférences, des dédicaces, des expositions, des jeux, il va y en avoir pour tous les goûts. Et parmi les invités, il y a du lourd, du très lourd. Un des maîtres de la BD actuelle, Enrico Marini, sera présent le samedi en dédicace et pour une rencontre à partir de 16h45 dans la salle Arsène Lupin. Deux expositions lui seront consacrées, le polar selon Marini, Batman et Noir burlesque. Caryl Ferré revient avec son roman Okavango paru en 2023. Et cette même année 2023, il a aussi scénarisé le film Compromat qui met en scène la Russie d'aujourd'hui. Alain Decker revient lui aussi avec son ouvrage Jour de ténèbres qui a reçu le Grand Prix des enquêteurs en 2023. Au rayon BD, il y aura Mats et les locaux Jérôme Méo, Sébastien Corbet et Jean-Blaise Gian. La jeune autrice, fantasy, chanteuse, comédienne, éditrice des éditions du Diamant viendra de Dérouville-Sinclair présenter entre autres « Moi, magicien, serial killer », je parle de Julie Steele. Il y aura aussi Marie-Laure Dupin, criminologue, Nico Tacan, co-créateur avec Franck Tilliez de la série Alex Hugo, Chris Jarvin, Philippe Lombard, Margot Lemoal, Sylvie Rouche, Vanessa Yé et plein d'autres encore. Tout le programme et toutes les informations sur bloodyfleury.fr. Découverte de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine situé à la Baie d'Ardenne à Saint-Germain-la-Blancherbe avec l'Office de tourisme de Caen, place Saint-Pierre. C'est le mardi 5 mars de 14h à 15h30. C'est 7 euros au tarif réduit, 5 euros. Le 29 février, les archives de Philippe Solaire entrent à l'IMEC aux côtés de Denis Roche, Jean Ricardou, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jean Edernelier, Jean-Pierre Fay, Jacques Henrique, Jean Thibaudeau, Michel Deguy et Alain Robbe-Grillet, Jean Quayrol ou encore Philippe Forest. Philippe Solaire y trouvera une place évidente dans la collection de l'IMEC. Enfin, pressez-vous pour vous inscrire au mémorial pour le concours des plaidoiries qui arrivent, qui vont avoir lieu du 15 au 17 mars. Les formulaires d'inscription vont bientôt être mis en ligne. Et surtout pour les lycéens, c'est souvent plein. Et les avocats, le dimanche, c'est archi plein. Mais je vous conseille, c'est vraiment des plaidoiries à ne pas manquer.
Bien, merci Alain pour cet agenda culturel en forme de sprint. Et nous arrivons donc au terme de ce 56e épisode de Bonjour Turbine. Merci à nos invités Christophe et Véronique Blanchard de Place 26, à Stéphane Godard de l'Univers BD rue Froide à Caen d'être venus dans notre émission. Ce soir, notre comité de rédaction était composé de Floriane, Lise, Thomas, Marion était à la technique. Quant à Alain et moi, nous avons eu le plaisir à animer. En attendant la prochaine émission de Bonjour Turbine, vous pouvez retrouver cette émission sur Station Biais, les audioblogs d'Arte, Spotify, Deezer. Bonne soirée à tous.